7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Aujourd'hui, gros plan sur l'école en France et un dialogue entre une proviseure de lycée, Marie-Christine Cuglioli, dans un quartier sensible de la banlieue parisienne. Dans son livre « Notre école n'est pas encore foutue », elle raconte son métier au quotidien agité, entre décrochage scolaire, violence et intégrisme. Elle nous livrera aussi son regard sur les réformes successives de l'éducation nationale et, paradoxalement, les immobilismes d'un système qui peine en réalité à s'adapter aux évolutions de la société et des jeunes en France. Également dans le studio, une psychologue, Jeanne Ciot-Fachin, qui s'interroge elle sur tout ce qui empêche l'enfant de réussir à l'école. Une question que peut-être les enseignants devraient se poser plus souvent. Et quant à vous les voisins, bien sûr, toutes vos réactions ou vos questions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou bien tout simplement en nous téléphonant si vous en avez envie au 33 1 84 22 71 71. Et en fin d'émission, nous laisserons la parole aux voisins d'Abidjan à propos du Salon Junior Expo. C'est le premier salon pour les jeunes de moins de 25 ans sur des sujets importants, l'éducation, mais aussi les loisirs. On en parlera en fin d'émission. Marie-Christine Cuglioli, Jeanne Ciot-Fachin. D'abord, j'aimerais bien savoir ce que vous inspire l'actualité en ce moment avec l'arrivée d'enfants réfugiés en France. L'éducation nationale attend, on parle de 4000 à 5000 élèves, principalement des enfants syriens et du Moyen-Orient, pour certains déscolarisés depuis plusieurs années. Ça pose évidemment des questions. J'imagine que vous ne lisez pas l'actualité de la même façon que nous, Marie-Christine Cuglioli, en tant que proviseur de lycée.
Bonjour. La réflexion que m'inspire l'actualité et l'accueil des jeunes migrants, comme on dit en ce moment, c'est un vrai. Il faut apprendre le français. Le départ, c'est la langue, bien évidemment. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément tout à fait adapté et tout à fait formé. On n'a pas vraiment les structures nécessaires pour cet apprentissage. Mais bien au-delà de la langue, on ne peut pas accueillir ces jeunes qui arrivent, j'ai envie de dire, délabrés. Je pense qu'ils ont vécu des choses qu'on n'imagine pas. Peut-être que c'est mieux qu'on ne l'imagine pas parce qu'on va les regarder avec un regard neutre.
Mais il faut d'abord les considérer comme des élèves pour
exactement,
vous.
Exactement, comme des enfants, comme des jeunes, et puis ensuite tendre la main, essayer d'apaiser, essayer de ne pas les choquer. Mais je pense que c'est pas facile.
Jeanne Ciot-Fachin, vous qui êtes psychologue pour les logiques de réussite scolaire.
Oui, bonjour. Mais moi, je trouve qu'il faut d'abord les accueillir comme des enfants, et je pense que finalement la place de l'école là, c'est la bienveillance, c'est avoir cette capacité d'ouvrir ses bras et de dire ok, il y a plein de choses. Effectivement, ils parlent pas français, ils ont vécu des choses horribles, ils sont différents par rapport aux élèves qu'on a l'habitude d'accompagner.
Plus matures parfois.
Hein. Oui, mais en même temps, moi je trouve que c'est aussi s'enrichir de cette différence, et je pense que c'est un apprentissage formidable pour l'école et pour les enfants de pouvoir... pour les enfants eux-mêmes, être en posture d'accueil, accueillir un autre que soi, de lui faire une place, faire une place. Moi, je trouve que ce sont des enfants qui sont tellement abîmés au niveau de la confiance en eux, au niveau de leur sentiment de sécurité interne, d'affectivité, que je crois ils ont besoin d'amour. Enfin, ça paraît toujours un petit peu bizarre de dire ça, mais je pense qu'ils ont d'abord besoin d'amour.
Marie-Christine Cuglioli, les chefs d'établissement sont en général beaucoup moins bavards sur leur quotidien et leurs difficultés dans l'éducation nationale en France que les enseignants qui racontent volontiers leur vie dans des livres. Pourquoi vous avez décidé de parler finalement ?
J'ai l'impression d'être à l'école primaire où j'étais souvent traitée de bavarde.
Merci.
Non, c'est une rencontre avec l'adjointe avec laquelle je travaillais l'année dernière, Céline Schneider. Et je raconte des histoires, je compte. Et à un moment, je parlais des jeunes comme ça. Oh, elle me dit, il faudrait que tu t'écrives un livre, et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Alors j'éclate de rire et je suis un petit peu paresseuse quand même. Et puis c'est pas écrire un livre, c'est un métier. Et donc je lui dis, il faudrait que je rencontre quelqu'un qui sait écrire. Et quelques temps plus tard, on revient et elle me dit, j'ai quelqu'un. Je lui dis, ah bon ? Elle me dit, oui, mon mari.
C'est vrai que vous avez quand même une carrière pas si banale. Vous avez vu passer quand même beaucoup de choses en plusieurs dizaines d'années. Octobre 2005, vous dirigez le collège où était scolarisé Ziyad et Bouna, deux élèves qui meurent électrocutés dans un transformateur après une course-poursuite avec la police. Juste après, c'est l'embrasement des banlieues. Vous êtes au cœur, un embrasement qui va durer plusieurs jours. 10 ans plus tard, janvier 2015, vous êtes proviseur au lycée des Lilas, donc toujours en banlieue, en zone sensible. Et cette fois, vous devez gérer l'onde de choc après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes. Finalement, 10 ans après les émeutes urbaines, qu'est-ce qui a changé?
Les Lilas, c'est pas en zone sensible. C'est très très multiculturel, mais c'est pas en zone sensible.
C'est pas classé en zone sensible en tant que tel.
Mais voilà, non, c'est assez important. 10 ans après, les choses qui ont évolué, j'ai envie de dire déjà le rapport avec la presse, si je peux me permettre, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Ah oui. Et ça, je trouve que c'est quand même positif pour l'école, parce que dans les médias, on voit des choses qui marchent, on en parle aussi. Il y a 10 ans, on montrait vraiment ce qui n'allait pas, et uniquement ce qui n'allait pas. Il y a toujours, au moment de Charlie, il y a eu, évidemment, on est allé chercher la petite bête, les jeunes qui n'avaient pas respecté la minute de silence, tout ça, qui était quand même... à la marge.
Mais vous avez été concerné par ce problème-là?
À peine, c'est ce que je dis. On a quelques élèves, mais avec lesquels on a dialogué. En revanche, il y a effectivement une difficulté, à mon avis, qui s'est accrue. C'est le dialogue et la reconnaissance de la légitimité des principes républicains. Et ça, on a quand même une remise en cause assez régulière. Et pour nous, c'est un véritable enjeu.
La charte de la laïcité, quel est votre regard sur cette nouveauté cette année, avec l'accord parental, d'ailleurs, qui laisse perplexe, où les parents doivent signer.
Alors, c'est pas un accord, c'est le fait qu'ils en ont pris conscience. Hier soir, j'animais des réunions de parents dans l'établissement que je dirige cette année, qui est en zone sensible
à Chelles.
Donc réunion des parents de seconde, puis après la réunion de l'association Réussir aujourd'hui, avec laquelle on travaille. On a un partenariat très 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 agréable et très productif, très constructif. Et puis ensuite la réunion de rentrée avec les parents d'élèves, toutes fédérations confondues, de façon à se présenter, à voir comment on allait travailler ensemble. Et donc j'ai parlé de la charte de la laïcité. Nous avons décidé, nous, de la mettre en première page du site du lycée, de façon à ce que chacun en prenne connaissance de cette façon-là. Je crois que la charte de la laïcité a été mal comprise dans un premier temps quand elle a été affichée, parce qu'on n'avait pas la formation. On a vu, ça a été ressenti comme une interdiction. Or, la laïcité, c'est pas une interdiction, c'est vraiment le respect de l'intime. C'est le respect de l'autre dans ce qu'il a de plus intime, de plus profond, de plus personnel.
Et à savoir sa foi.
Sa foi. Exactement. Mais la notion de foi, qu'est-ce qu'il y a de plus intime que ça? Donc c'est vraiment la liberté de conscience et cet espace de liberté qui est construit au travers des principes donnés dans la charte de la laïcité. Donc hier soir, on a parlé de ça avec les parents de l'établissement, qui m'ont regardé, pour certains, avec les yeux écarquillés, parce que effectivement, c'est pas un regard qu'on a sur cette charte. Alors moi, je reconnais que dans un premier temps, quand j'ai lu la charte, quand elle est sortie il y a 2 ans, je crois, c'était 2013 ou 2000, quelque chose comme ça, 2014, sur le coup, j'ai dit ouf, sur le terrain c'est compliqué. Et puis dans l'académie de Créteil,
c'est compliqué parce que vous êtes dans des établissements avec des élèves de toute confession.
Oui. Et puis peut-être que je l'ai vécu aussi comme un barrage, mais le fait de travailler le texte, et dans l'académie de Créteil, on a le soutien, l'accompagnement d'Anne Reberol, qui est en charge de la mission laïcité, et Madame la rectrice a mis vraiment ce qu'il fallait. Elle a fait venir Abdelnour Bidar. Une information.
Votre métier, les établissements scolaires que vous dirigez, sont en permanence au centre du débat politique. C'est pas complètement spécifique à la France, mais c'est vrai que tout ce qui touche à l'école en France est un sujet sensible et surtout un sujet politique. Chaque année, il y a des livres de rentrée, donc il y a le vôtre, hein, il y a le livre de Jeanne Siofachin, et puis il y a des politiques aussi qui écrivent sur l'école. Alain Juppé, candidat à la primaire à droite, aimerait devenir président de la République, ça vous êtes au courant, et il vient de sortir un livre sur l'école, avec un sous-titre, l'éducation c'est la mère des réformes. Depuis le temps que vous consacrez votre vie à l'école, tous les politiques vous ont fait le coup que l'école sera au centre de leur mandat.
Mais je crois qu'ils sont tous très sincères. Alors moi, je suis pas une politique, je le dis très clairement, je suis pas là en tant que politique. Mes opinions n'intéressent que moi, vraiment.
Comme la foi, finalement.
Mais comme la foi, exactement. Moi, je suis fonctionnaire d'État, donc a priori, j'ai pas exposé un avis comme ça. Mais je pense que tous les politiques, et dans le courant de ma carrière, j'ai été amenée à en rencontrer de droite et de gauche, tous sont extrêmement sincères dans la volonté de porter l'école. Je veux dire, on a quand même quelque chose en France, c'est que l'école, c'est un droit. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, et j'insiste là-dessus avec les enseignants. Quand je rencontre une équipe enseignante, ou quand je construis sur la durée, ne jamais oublier que c'est un droit avant tout, avant d'être une obligation. Et je préfère travailler sur créer les conditions de l'assiduité plutôt que se battre contre l'absentéisme, par exemple. Et je crois que ça, il faut le porter, vraiment.
Alors, sincérité des politiques, en tout cas, tous partagent un seul point de vue. Parler aux Français, c'est aussi parler aux professeurs, hein, de leur métier et de leur temps de travail, ce qui est un sujet sensible. Écoutez Alain Juppé.
Cette question du temps de travail des enseignants est assez démagogique. Il ne faut pas la limiter aux 18 heures de service d'un professeur certifié. Quand on prépare ses cours et surtout quand on corrige des dizaines de copies, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ne pas le faire dans l'établissement? Beaucoup dépend dans le fonctionnement de l'établissement de la qualité du préviseur ou du principal et de l'équipe de direction qui l'entoure. Et je fais des propositions très concrètes dans ce domaine pour renforcer le rôle et la légitimité de cette équipe de direction. Par exemple, dans la modulation de ce qu'on appelle la dotation horaire globale, sans entrer dans le détail. Oui, réalisons les conditions pour que les profs restent plus longtemps dans l'établissement. S'ils avaient des bureaux ou des salles de classe conviviales où ils puissent corriger les copies, par exemple, plutôt que de le faire chez eux, eh bien, je pense que ce serait une plus grande disponibilité. Et entre deux corrections de copies, on pourrait recevoir les parents ou les enfants. J'ai été frappé un jour par un reportage dans un collège de la banlieue parisienne. Un gamin disait, moi, dans mon collège, quand je demande d'être reçu par mon principal, il me reçoit dans la semaine. Il m'écoute. Et quand j'ai un problème, il m'aide. C'est pas le cas de mes copains dans d'autres collèges. Vous voyez, le rôle de l'équipe de direction est absolument fondamental.
Voilà, et en cette rentrée scolaire, tous les politiques s'affrontent, hein, avec des propositions différentes sur l'école. Vous nous le disiez, d'ailleurs, vous avez travaillé avec sous tellement de gouvernements différents, Marie-Christine Cuglioli. Le temps de présence des enseignants, c'est un vrai... Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas un sujet creux, c'est un vrai sujet sensible, compliqué. Pourquoi c'est si compliqué que ça, le temps de présence des enseignants dans l'établissement en France, hein, par rapport à d'autres pays où les enseignants passent beaucoup plus de temps dans l'établissement?
Alors, il y a une tradition, hein, il y a une tradition française, et puis il y a l'évolution de l'école, hein. On est dans une période de massification et je pense qu'un pays qui met un objectif de massification de l'enseignement et d'accès à la connaissance, c'est un pays qui a raison.
Mais bon, tous les pays développés le font, et même non développés d'ailleurs. Donc ça, c'est universel, la massification de l'école.
Mais la tradition française, je pense qu'il y a une grande souffrance chez les enseignants qu'il faut prendre en compte à l'heure actuelle, pour plein de raisons. Donc cette évolution de tous les jeunes au baccalauréat, les 80% d'une tranche d'âge et on est au-dessus là au baccalauréat, puis l'accès à l'enseignement supérieur. Mais en même temps, le rôle de l'enseignant est en train de changer. Est-ce qu'on apprend toujours uniquement à l'école? Je ne crois pas. Hein. Tous les médias à l'heure actuelle proposent un éventail. Bon, on a l'encyclopédie dont rêvaient les philosophes des Lumières à portée de main par Internet. Maintenant, l'encyclopédie, il faut se l'approprier. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment, quand on est enfant et qu'on est avec une tablette dans les mains, qu'est-ce qui va en sortir? Et du coup, il y a une énorme réflexion, une remise en cause sur le métier d'enseignant. Et je crois qu'il faut prendre en compte, je parle de souffrance réel, parce que les enseignants sont des gens engagés, mais pour l'instant, la formation évolue, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore formés à prendre ce tournant.
Vous n'avez pas parlé de la question des salaires, qui est évoquée aussi par tous les politiques en cette rentrée scolaire. Alain Juppé propose par exemple d'augmenter 10% le salaire des enseignants du primaire, qui sont parmi les plus bas, plus bas que dans les pays voisins, en tout cas Allemagne, Angleterre, etc. Pas soutenable financièrement, répond l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, sauf si on réforme le bac qui coûte très cher, répond le camp à droite. On est en permanence dans ces arbitrages financiers, politiques, et on a l'impression que, dans le fond, ça n'avance pas tellement.
De toute façon, je pense que le problème, indépendamment des réformes et des propositions des uns et des autres, le problème reste effectivement l'argent. Bac plus 5 pour un enseignant qui commence aux alentours, à la louche, de 1400 euros net par mois.
En primaire.
En primaire, mais la grille de salaire des certifiés est la même. C'est maintenant, c'est cadre à de la fonction publique, donc il y a une grille de salaire de base. Quand vous êtes jeune certifié, 23-24 ans, que vous avez fait vos études en province, avec le coût de la vie en province, que vous êtes muté dans l'académie de Créteil, il faut vous loger. Il faut compter le prix des billets de train pour rentrer à la maison le week-end, parce qu'on a quand même ses attaches, ses amis là-bas.
Il y a un vrai problème.
Il y a un vrai problème et il faut le prendre en compte.
Et que vous êtes obligé de prendre en compte, vous, en tant que chef d'établissement, au quotidien. On en reparle, on va parler aussi, bien sûr, avec vous, Jeanne Siofachin, de l'échec scolaire qui touche en priorité les enfants des familles défavorisées, mais pas seulement, un vrai problème qui concerne l'école à la française aujourd'hui.
7 milliards de voisins.
Le monde est un village planétaire.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
On est unis dans la diversité, malgré toutes nos différences. Il y a toujours quelque chose qui nous rapproche.
C'est l'amour, ça.
Voilà,
d'accord.
C'est l'amour.
Jeanne Siofachin, vous êtes psychologue, et c'est pour ça qu'on a organisé ce dialogue entre une proviseure et une psychologue. Ça nous a semblé plus inédit finalement qu'entre une proviseure et une enseignante. Les enseignants, vous les côtoyez toute la journée, toute la semaine. Marie-Christine Cuglioli, Jeanne Siofachin, vous publiez « Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ?» La France connaît, enfin, est mal placée, mal classée dans les classements internationaux. Si on regarde la réussite des élèves, ce que savent les élèves, ça touche bien sûr les élèves les plus défavorisés, mais pas seulement. Finalement, quelles sont aujourd'hui les différentes causes de l'échec scolaire de ces enfants qui ne parviennent pas à apprendre, à réussir?
Oui, cette notion de réussite est vraiment importante, mais comme vous le disiez à l'instant, ce qui est important, c'est peut-être de faire un peu un pas de côté, c'est-à-dire plutôt d'encourager ce qui marche plutôt que de pointer en permanence ce qui dysfonctionne. Et c'est vrai que l'école est le creuset qui attire cette espèce de
le débat, les polémiques.
Mais oui, bien sûr, et c'est important parce que bien sûr l'école, c'est aussi le cœur de la pression de tout le monde. C'est un sujet qui pèse sur les épaules de tout le monde. Ça pèse sur les épaules des parents parce que moi, par exemple, je reçois une maman là avant les vacances scolaires, avant la rentrée scolaire, une maman avec une petite fille de 3 ans qui vient me voir en me disant, madame, je viens vous voir parce que je suis angoissée de devenir une maman qui va mettre son enfant à l'école. Donc on est dans une anticipation anxieuse. Incroyable.
Mais on n'a jamais autant alerté les parents dans les médias, à l'école aussi. À l'école, on les alerte beaucoup sur leurs responsabilités, sur leur éventuelle culpabilité future.
Oui, mais c'est ça. Je trouve ça terrible parce que donc la pression pèse beaucoup sur les parents parce que finalement aujourd'hui, être un bon parent signifie avoir un enfant qui réussit à l'école parce que c'est le sujet majeur de conversation entre les parents entre eux. Et quand un parent a un enfant en difficulté à l'école, il se sent coupable et il a la trouille d'aller rencontrer les profs parce qu'il a l'impression qu'il va se faire gronder lui-même et qu'il n'a pas réussi sa mission de parent. C'est une pression qui pèse énormément, comme on vient de le dire, sur les épaules des enseignants, évidemment. Et au centre de tout ça, il y a l'enfant qui est en souffrance. Et c'est ça que je trouve très important. C'est de revenir au cœur aussi du sujet, c'est que l'enfant est en souffrance. Un enfant qui est en difficulté à l'école, évidemment, un enfant qui est en échec à l'école, c'est d'abord et avant tout un enfant en souffrance.
Oui. Marie-Christine Cuglioli, je vois que ça vous parle. On va vous donner un droit de réponse, bien sûr, dans quelques minutes. Vous restez toutes les deux avec nous. Échec scolaire, décrochage scolaire aussi. 7 milliards de voisins. Retour dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI, bien sûr, juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, nous parlons éducation comme chaque vendredi en compagnie de Marie-Christine Cuglioli, proviseure qui publie Notre école n'est pas encore foutue, le et encore étant entre parenthèses, je le précise, et Jeanne Siofachin, psychologue, vous publiez Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir. Nous en discutions avec vous deux juste avant le flash sur la réussite scolaire et ce poids qui pèse désormais sur l'ensemble de la communauté des familles qui souhaitent que leurs enfants réussissent. C'est un, bon, ça c'est un souhait universel,
mais c'est un vœu
normal.
Pieux, hein. C'est un vœu pieux d'avoir envie
mais vous dites
qu'il
y a trop de pression aujourd'hui en France.
C'est-à-dire, oui, il y a une pression qui est énorme, mais comme je le disais à l'instant, il y a aussi la souffrance. Et comme on le disait aussi avec Madame la proviseure, c'est que tout le monde souffre. Les enfants souffrent, les enseignants souffrent, les familles souffrent, et que on voit bien que là il y a quelque chose qui est important. Et moi je pense que vraiment modifier. Enfin, être plus dans la... Alors, ça paraît être un mot un peu compliqué, mais être plutôt dans la pédagogie de la réussite plutôt que dans la pédagogie de l'échec, c'est pas si compliqué que ça. Mmh. C'est-à-dire, ça veut dire quoi au quotidien? Ça veut dire plutôt d'encourager les réussites, d'encourager les efforts plutôt que de stigmatiser en permanence les difficultés et l'échec. Mmh. C'est porter un autre regard sur l'enfant. C'est vraiment l'accompagner. C'est vraiment d'avoir ce rôle d'éducation nationale. Éducation, ça veut dire élever un enfant. Donc, ça veut dire le faire grandir.
Est-ce que cette situation que vous décrivez, ça ne correspond pas davantage à des collèges, lycées, enfin des établissements scolaires plutôt élitistes où la pression est intense et où on n'a pas peur de rudoyer les enfants? Comment ça se passe dans les établissements que vous dirigez, Marie-Christine Cuglioli? Vous êtes là actuellement en banlieue HL, donc en zone sensible. Est-ce qu'il n'y a pas la façon d'enseigner n'est pas abordée différemment avec des élèves qui ont plus de risques d'être en échec scolaire et en décrochage scolaire?
Alors déjà, en général, les parents nous confient leurs enfants en nous disant « voilà, je te le donne, fais-en quelque chose ». Et là, du coup, on
c'est
a
lourd.
Une responsabilité. C'est lourd, mais en même temps, on a un lien qui s'est créé avec les familles. Bon, ça, c'est une partie des familles. L'autre partie des familles, malheureusement, parfois, dépasse un petit peu le cadre de son regard sur l'école. Et donc, il faut aussi gérer là-dessus. Mais moi, je voudrais attirer l'attention quand même sur toute la réflexion qu'il y a autour, en ce moment, autour de l'évaluation, autour, alors, des mots un peu savants, pardonnez-moi, mais l'évaluation par contrat de confiance, faire rentrer l'évaluation des réelles compétences acquises dans certains domaines, en plus de l'évaluation des connaissances, changer le mode de notation. Mmh. De toute façon, la notation, on en a besoin. Dans la vie, on est évalué tout le temps. Donc, c'est un leurre de dire qu'il faut faire disparaître la notation, qu'elle soit sur 20 ou qu'elle soit autre.
Enfin, on est quand même dans un système, dans une école en France, où c'est le règne, l'obsession de la note, quand même.
Oui, mais alors, moi, mon point de vue, il n'engage que moi, le problème, c'est que le gamin part avec un capital de 20, et il ne peut que descendre. Et ça, moi, c'est quelque chose, quand j'étais enseignante, quand j'étais institutrice et quand j'étais professeure, c'est quelque chose qui m'a toujours gênée. Parce que du coup, tu pars avec un capital de 20 et tu descends et tu descends et tu descends. Alors, on descend rarement jusqu'au zéro. Donc, de toute façon, l'échelle de notes, elle est entre 8 et 14. Et bon. Alors que maintenant, il y a vraiment toute une réflexion sur quand il entre dans ma classe, il part d'un certain niveau et quand il va sortir de ma classe, au bout de l'année, qu'est-ce qu'il a acquis?
Ça, c'est positif, cette
et
interrogation-là.
Ça, pour moi, c'est extrêmement positif.
Ben oui, parce que là, on est vraiment, je suis vraiment contente de vous entendre dire ça, parce que là, on est effectivement vraiment dans le renforcement positif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on est, et on sait combien, après, si on va aussi un peu du côté du cerveau, on sait que cette espèce d'anticipation de la note et de la mauvaise note, crée un stress physiologique important chez la majorité des enfants, et que ça sécrète du cortisol quand même. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est un poison pour le cerveau, et ça empêche d'apprendre, ça empêche d'être disponible pour les apprentissages, ça empêche de mémoriser, alors que si effectivement on avait un système qui permettait de souligner ce que l'enfant a acquis, les progrès qu'il a pu faire, eh bien à l'inverse, ça fait instantanément sécréter des endorphines qui sont les hormones du plaisir et qui sont aussi les hormones de la motivation. Parce que pour être motivé, enfin, cette motivation qui est aussi souvent au cœur des débats, qu'est-ce qu'il faut faire pour être motivé? Pour être motivé, il faut réussir. C'est à partir du moment où vous avez réussi quelque chose et qu'on a souligné cette réussite que alors vous allez mettre en place les efforts nécessaires pour acquérir un palier suivant et une réussite suivante. C'est ça la motivation.
Vos élèves qui décrochent, qui sont des décrocheurs scolaires, qui commencent par ne plus aller en cours, par exemple, Christine Cuglioli, ce sont des élèves dont vous, quand vous parlez d'eux dans votre livre, vous dites ils sont pas très intéressés par l'école. C'est un problème de motivation ou c'est plus compliqué?
C'est plus compliqué. C'est évidemment plus compliqué que le problème de motivation, quelle que soit la classe sociale. Je pense aussi qu'il faut qu'on revoie la place de l'enfant dans notre société et à l'école, remettre un... En particulier, là, pour le coup, c'est un problème, à mon avis, de société. Vraiment, un enfant, il faut le laisser à sa place d'enfant. Ça ne veut pas dire ne pas le respecter, mais l'adulte, il doit rassurer le gamin. Et le gamin, il ne doit pas avoir sur ses épaules à diriger le monde. Quand on demande à un gamin, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Qu'est-ce que tu veux... j'ai une anecdote. Une petite fille de... pas tout à fait deux ans, à qui j'achète des chaussures, qui n'est pas ma fille, qui est ma nièce, et on lui achète des chaussures. Et voilà, on choisit des chaussures qu'on trouve mignonnes avec sa maman, ma belle-sœur, et la maman dit, elles te plaisent les chaussures que tata t'a achetées? Et là, je lui dis, non. T'as vu comme elles sont belles, les chaussures que tata t'a achetées. Excusez-moi, ça paraît anecdotique, mais vraiment, pour moi, c'est symptomatique. À deux ans...
Tous les psys nous serinent, nous disent depuis des dizaines d'années qu'il faut écouter les désirs de l'enfant.
Non, c'est pas la même chose.
On n'est pas dans le désir.
Les parents vous répondront ça. Ils pensent bien faire quand ils posent bien la question, elles te plaisent, tes chaussures.
Oui, mais ça, c'est justement un biais de la compréhension. C'est un biais de la compréhension de la place de l'enfant. Parce qu'effectivement, quand Marie-Christine Cuglioli dit que c'est important la place de l'enfant, et de les considérer comme des enfants, c'est que bien sûr, il faut pouvoir entendre leurs besoins, ce dont les enfants ont besoin, mais l'attitude d'un parent, c'est pas de dire c'est pas l'enfant roi, c'est pas l'enfant, et vous l'avez très bien dit, c'est pas l'enfant qui doit diriger le monde, parce que c'est très anxiogène. C'est comme quand on demande à un enfant s'il veut aller plutôt dans cette classe ou pas cette classe, s'il veut sauter une classe, s'il veut redoubler, qu'est-ce que tu en penses toi de redoubler? Non, c'est pas à l'enfant de penser ça.
Attendez, dans les établissements scolaires, vous enseignez dans des zones où les familles sont au chômage. Est-ce que vraiment vous pensez qu'on écoute trop les besoins de l'enfant et des élèves?
Ah, je pense que c'est un problème de société, c'est pas un problème...
Tous milieux sociaux.
Ah oui. Vous parliez tout à l'heure...
Vous avez des élèves, vous le racontez dans votre livre, qui n'ont pas d'endroit pour faire leurs devoirs.
Tout à fait.
Une gamine qui est obligée d'aller au cimetière, c'est le seul endroit calme pour qu'elle fasse ses devoirs, par exemple.
Mais en même temps, elle est projetée. Alors, elle a d'autres difficultés, on est d'accord. Mais le regard que la société lui donne, enfin, c'est que elle pourrait choisir.
Oui.
Et ça, à mon avis, ça rajoute de l'anxiété. Je dis à la fin du livre que moi, je pense que dans la formation des enseignants, et là, c'est le vécu aussi qui parle pour les jeunes que j'ai croisés, il y a vraiment le problème. Ils n'ont aucune notion de psychologie de l'enfant et de l'adolescent, au moins les bases. Ça veut pas dire qu'on apprend tous à lire au même âge à trois semaines près, mais ça veut dire qu'il y a des phases. Ça, on n'en entend pas parler.
Vous voulez dire qu'un enseignant n'a pas forcément rencontré un psychologue cours de sa formation?
Absolument.
Mais ça, c'est, mais merci
un psychologue de l'enfant.
Absolument. Non, mais merci de souligner ça. Vraiment merci, parce que c'est vraiment l'objet aussi de mon livre, c'est-à-dire qu'il s'adresse aussi beaucoup aux enseignants, parce que je fais beaucoup de formations dans les écoles justement auprès des enseignants, parce que c'est quand même extraordinaire en France que les enseignants, ils ont aucune notion de psychologie de l'enfant, aucune notion du développement de l'enfant, y compris du développement cognitif de l'enfant, c'est-à-dire comprendre comment l'enfant apprend et les différentes étapes de développement.
Notamment les différences entre les filles et les garçons.
Les différences entre les filles et les garçons. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que la motivation? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que l'attention? On dit, il faut que les enfants soient concentrés. Ok. Mais qui a pris la peine d'aller expliquer aux enseignants qu'est-ce que c'est que l'attention et comment ça marche l'attention? Et ce sont des points que j'aborde dans mon livre, c'est-à-dire effectivement les différentes finalement savoirs de base qu'il faut connaître pour comprendre pourquoi un enfant peut être en difficulté sur son parcours scolaire en particulier, que ça soit précisément sur dans les aspects cognitifs, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention, tout ce club des 10, hein, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode ce club des 10.
Dyslexie, dyscalculie,
dyspraxie, dysgraphie, il y en a beaucoup. Mais c'est important quand même de connaître ça, parce qu'il y a quand même des enfants qui sont maltraités psychologiquement à l'école, parce que tout simplement parce que les enseignants n'ont pas la connaissance. C'est pas parce que les enseignants maltraitent des enfants, c'est évidemment pas du tout ce que je dis. Mais quand on connaît pas quelque chose, on va dire à un enfant, mais il le fait exprès, tu le fais exprès, tu fais pas d'effort.
Mais non, il y a un problème de repérage pour vous, des difficultés.
Il y a un problème de repérage.
Mais en même temps, Marie-Christine Curioli, vous passez votre temps à appeler l'aide sociale à l'enfance, à appeler les assistantes sociales. Vos journées, l'impression, sont rythmées entre les visites au commissariat, aussi bien l'opéra pour monter un partenariat avec l'opéra de Paris. Enfin, vous êtes en permanence en lien avec des gens extérieurs à l'école, censés faire du bien aux enfants.
Mais il faut
les protéger.
Ils font du bien aux enfants, mais tous ces gens avec lesquels on travaille, on parle de repérage, effectivement, il faut les repérer. Et je pense qu'il faut donner aux enseignants dans leur formation les clés du repérage. Et on parle de neurosciences, et en ce moment, les neurosciences font un travail extraordinaire, progressent vraiment. Moi, j'ai des enseignants, et je le raconte aussi dans le livre, qui ont travaillé sur les processus de mémorisation, et qui en a accompagnement personnalisé de seconde, travaille vraiment avec leurs élèves pour que chacun sache comment il mémorise, il va pouvoir s'accrocher pour repérer les choses. Et je pense que toutes ces choses-là, ça permettrait aussi de construire les contrôles différemment.
Un adolescent aujourd'hui qui est en réelle difficulté scolaire, si ses parents n'ont pas de quoi lui payer des cours privés, quelles sont ses possibilités pour qu'il progresse? Comment peut-on l'aider aujourd'hui? Quelles sont les structures existantes?
Mais moi, je crois que la base, c'est vraiment ce que vous dites, Marc-Christine, c'est qu'il faut repérer la nature de la difficulté. Il faut avoir cette possibilité, et c'est probablement d'abord le rôle de l'école et des enseignants de pouvoir avoir, alors pas de poser un diagnostic, parce que là, c'est pas leur mission. Mais un regard et un repérage. Ensuite, attention. Et ben ensuite, il faut pouvoir les faire prendre en charge pour pouvoir les accompagner
comment les enseignants vous disent,
mais c'est pas le rôle des enseignants. C'est surtout pas le rôle, justement, vous dites, de faire prendre des cours particuliers. Mmh. On sait très bien, justement, aujourd'hui, en France, que les cours particuliers sont pris par les enfants de milieux sociaux très favorisés pour augmenter encore la réussite. Donc, c'est pas le sujet. Je crois que le sujet, c'est comprendre la nature de la difficulté, pouvoir repérer les troubles qui vont gêner l'enfant sur son parcours et pouvoir mettre en place les accompagnements spécialisés, les rééducations, les orthophonistes, les psychomotriciens, les neuropsychologues, les psychologues spécialisés dans les troubles d'apprentissage.
Ou tout simplement de l'aide au devoir via une association pour ceux qui ont les troubles les moins sévères.
Oui, mais l'aide au devoir, si c'est un enfant qui a par exemple au départ une dyspraxie, c'est-à-dire une difficulté pour se repérer dans la feuille et à l'écriture et s'organiser, eh bien l'aide au devoir va renforcer la souffrance de l'enfant parce qu'on va lui demander encore de faire des efforts alors que c'est comme si vous aviez une jambe cassée.
On va multiplier ses blocages.
Et qu'on vous dit, que vous avez des jambes et que puisque vous avez des jambes, vous pouvez courir. Tant que vous n'avez pas réparé la jambe, vous ne courrez pas. Et vous serez toujours en souffrance quand on vous demandera de courir.
Marie-Christine Curioli.
Alors, dans les partenaires qu'on a à l'école, on a les CMP, Centres Médico-Pédagogiques.
Avec un certain délai pour avoir un rendez-vous quand même, il faut dire la réalité.
Oui. Et des formations parfois approximatives sur ces troubles-là.
Alors ça, je ne sais pas. C'est pas mon domaine. Mais dans les relations qu'on peut avoir avec les professionnels extérieurs, psychologues, psychiatres, quand quand on, la difficulté, c'est d'instaurer la confiance entre les différents partenaires. Parce que quand on a les partenaires qui existent, et on en a, et on, qu'on les trouve dans le cadre institutionnel ou dans le cadre des municipalités qui font un gros, gros effort, les équipes de réussite éducative, hein, qui ont été mises en place dans les plans de cohésion sociale, le cadre de la politique de la ville. On a beaucoup de choses qui existent maintenant. Le tout, c'est d'instaurer la confiance entre les différentes institutions. À chaque fois qu'on peut travailler en confiance avec les institutions, à chaque fois, ça marche. Quand il y a un doute, quand il y a de la méfiance, quand il y a...
Oui, mais il faut arrêter les accusations croisées.
Voilà.
Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui complique considérablement les choses, c'est l'accusation croisée. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire, dès qu'on est dans la collaboration entre les parents, l'école et les intervenants extérieurs, les psys, les orthophonistes ou peu importe, à ce moment-là, l'enfant se sent vraiment porté et tout se remet à fonctionner tranquillement. Ça devient fluide.
Tout à fait. J'aimerais quand même qu'on arrive au terme de ces discussions sur une note positive. Les établissements scolaires aujourd'hui sont un formidable laboratoire d'idées pour une autre école. Vous êtes souvent en avance d'ailleurs pour monter des projets, etc., qui ne se font pas dans les établissements plus privilégiés, Marie-Christine Culioli.
Tout à fait. Et moi, je tiens vraiment à porter ça haut et fort.
Ces dernières années, quels sont les projets qui sont les plus prometteurs pour vous? Vous avez vu de vos yeux fonctionner pour les enfants, progresser les élèves.
J'ai vu l'année dernière. Alors, vous allez me dire, elle est à côté de la plaque, mais non. J'ai vu l'année dernière un projet monté en accompagnement personnalisé par un professeur de lettres et un photographe et trois structures de personnes handicapées. Et ça a été
Venir des adultes handicapés dans l'école.
Dans l'école.
Pour travailler avec les jeunes.
Et nos jeunes de seconde aller travailler dans les structures d'accueil de personnes handicapées. Je vous garantis que, bon, il y a eu des productions de textes, il y a eu des photos, il y a eu des choses comme ça, donc on est dans le cadre scolaire, il y a ce qui est attendu à l'école de production, d'évaluation, ta. Mais franchement, ça dépasse très, très, très largement le cadre scolaire. Parce que là, je pense qu'on a vraiment touché, cette enseignante a touché quelque chose qui va beaucoup plus loin dans la formation de la personnalité, le respect de l'autre. Et ça, c'est très compliqué à monter, c'est très compliqué à faire reconnaître, parce que c'est vrai que dans les indicateurs d'établissement, il n'y a pas de prise en compte de cette réussite-là.
Oui, de faire grandir les enfants dans le bon sens du terme.
Et ça, il faut vraiment réussir à valoriser ces choses-là.
Oui, mais moi je trouve ça formidable parce que ça met en jeu aussi cette possibilité de s'engager, de s'impliquer.
L'engagement.
Parce que l'engagement c'est une valeur majeure et finalement si les élèves viennent simplement là pour recevoir une espèce de savoir que de toute façon comme vous le disiez très justement tout à l'heure on trouve aujourd'hui un peu partout, il faut partager, il faut être dans la co-construction du savoir, du savoir-faire et peut-être surtout du savoir-être, du savoir être ensemble. Et ce que le projet dont vous parlez, c'est aussi un projet d'ouverture du cœur au sens large. Et à ce moment-là, le courage, ça vient quand même de cœur au niveau de l'étymologie. Et donc, c'est comme ça qu'on se met en marche et qu'on se met en marche ensemble. Tout le monde a envie d'avancer. Donc, avançons ensemble, serrons-nous fort les mains et on en a tous envie et nous, les adultes, envie, on donnera à tous les enfants, quels qu'ils soient, envie de participer à cet immense projet d'avancer et de réussir, mais réussir son projet personnel de vie, quel qu'il soit.
Marie-Christine Culioli, vous êtes bientôt, je vais dire, en fin de votre carrière. Est-ce que vous croyez encore à l'école? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'école française aujourd'hui?
Ah oui, moi j'y crois. Moi j'y crois parce que, bon, Platon disait, je crois, je le dis pas en grec, mais en gros, une société qui a peur de ses enfants est une société qui va mal. Moi j'ai pas du tout peur des enfants. Je pense qu'il faut avoir confiance sur leur capacité à rebondir. On est dans une société qui évolue, multiculturelle, ça c'est très clair. Vous parliez en début d'émission des migrants, justement. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, cette France qui se renouvelle, donc il faut qu'on garde bien évidemment les traditions, la culture. Moi, je crois qu'il ne faut pas renoncer à notre histoire. Je pense que c'est fondamental de construire notre histoire, de la garder, mais on va la faire évoluer. Et nos enfants vont la faire évoluer. À nous de les former pour qu'ils évoluent dans le bon sens, en gardant les valeurs humanistes, en gardant le respect de l'autre et en gardant les valeurs républicaines qu'on vit bien chez nous.
Voilà, vous êtes sur effectivement des idéaux qui sont assez extraordinaires et en même temps votre vie quotidienne, là c'est la rentrée scolaire,
oui.
C'est que des petites galères à régler.
Ah bah oui, j'ai eu au téléphone ce matin un élève que j'avais l'année dernière au Lila qui m'a appelé en me disant au secours, après le bac, il a eu son baccalauréat, il l'a pas décroché facilement, c'était pas la première fois qu'il le passait, mais il a fait rempli APB, admission post-bac. Il a été pris en médecine, il a pas été pris en STAPS, donc en éducation physique. Il me dit, Madame Culélie, au secours, est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi? Parce que moi, médecine, non, mais sport, oui.
Et qu'est-ce que vous pouvez, vous, proviseur?
Écoutez, je vais essayer de téléphoner, mais bon, c'est pas bien, voilà. C'est pas bien parce que, voilà.
Chronophage.
C'est chronophage.
Ces cas qui s'additionnent.
C'est juste insensé.
Et en même temps,
quoi.
Des destins qui, parfois, se tiennent au creux de votre main. Merci à toutes les deux d'être venues. Marguerite Culioli, faut vous lire votre témoignage proviseur. Hein. Notre école n'est pas encore foutue aux éditions Flammarion. Jeanne Siaud-Fachin, pour tous les professionnels, mais pas seulement.
Pour les parents.
Tous les parents aussi, psychologue, et vous publiez « Qu'est-ce qui l'empêche de réussir ?» aux éditions Odile Jacob, c'est très accessible. Nous partons dans quelques instants pour Abidjan, où se prépare le Salon international des moins de 25 ans. Changement de décor, les moins de 25 ans, c'est à peu près la moitié de la population en Côte d'Ivoire.
La vie est une chance, le reste tu mérites. Même quand t'as pas assez souffert, c'est terrible. Ne pas savoir miser sur la bonne personne, perdre la chemise à la mauvaise somme. La poisse t'appelle pas ton diminutif, chaque décision définitive. Si tu cherches l'amour, c'est que tu l'as laissé passer. Tes battements de cœur, ils vont s'espacer. Accepter que t'étais pas prêt, ce qui marche pas sera pour la fois d'après. Une chance. Stress, t'as quatre feuilles ou c'est la dégringolade. Le perdant pleure, mais la victoire est amère, même plus que la défaite. Demande à ta mère, les gens apprennent un guide et lui marchent.
Une chance, Oxmo Puccino, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en ligne à présent avec Assita Diabaté. Bonjour Assita Diabaté.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Abidjan à l'initiative de ce salon Junior Expo qui va démarrer la semaine prochaine. Non, dans un petit peu plus, entre le 20 et le 24 septembre, très précisément.
Tout à fait.
C'est la première édition de ce salon Junior Expo à Abidjan. À qui s'adresse-t-il?
Alors, le Salon international des moins de 25 ans, dénommé Junior Expo, s'adresse principalement aux jeunes de moins de 25 ans, à leurs parents, aux chefs d'établissement, mais également à tous les responsables d'encadrement de structures de jeunesse.
Ça sera donc bien sûr ouvert au grand public. L'entrée est à 1000 francs CFA, c'est bien cela?
L'entrée est à 1000 francs CFA, mais gratuite, sous réserve d'inscription en ligne. Le thème central de cette première édition est l'éducation face aux défis du numérique. Donc nous souhaitons inculquer la culture numérique aux jeunes et au grand public de façon générale.
Ouais.
Pour tous ceux qui s'enregistreront en ligne, ils recevront une e-invitation qui leur permettra d'accéder.
Ils économisent 1000 francs CFA, donc. Oui, parce
voilà,
que j'allais vous dire que 1000 francs CFA, c'est à peu près 1,50€, donc ça s'adresse pas à tout le monde.
Tout à fait, c'est gratuit. En fait, c'est gratuit sur réserve d'inscription en ligne. Nous souhaitons que tout le grand public s'inscrive directement via notre site internet. Mmh.
Mais finalement, vous organisez ce salon Junior Expo pour répondre à quels besoins des familles et des jeunes aujourd'hui?
Alors, le Salon Junior Expo répond à de nombreux domaines, à de nombreux besoins, pardon. Vous savez, une population majoritairement jeune, comme celle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général, soulève de nombreuses préoccupations, notamment la question de l'emploi, la question de l'adéquation formation-emploi, la question de l'accès aux soins de santé, et tout un tas de questions. Donc, ce salon est créé pour répondre à tous les besoins et toutes les problématiques rencontrées par les jeunes.
Oui, mais il n'y aura pas d'offre d'emploi au Salon Junior Expo, par exemple, pour les jeunes qui viendraient.
Alors, les offres d'emploi, nous sommes dans une cible qui est en phase d'être sur le marché de l'emploi. Donc, nous allons plutôt parler d'accompagnement à l'emploi. Nous aurons des structures qui vont accompagner les jeunes à rechercher des stages, qui vont accompagner les jeunes à rechercher un emploi, à faire un CV. Le programme des Nations Unies pour les bénévoles, pour les jeunes bénévoles, sera présent. Présentera l'ensemble des offres, et également la Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire sera là pour présenter effectivement les opportunités en matière de stage et d'emploi aux jeunes.
Parce que vous constatez que les jeunes finalement ne sont pas réellement au courant de la vie économique de leur pays, de là où se trouvent les bassins d'emploi, etc. Ils sont pas si informés que cela?
Tout à fait. Ils ne sont pas si informés que cela. Il y a souvent une inadéquation entre la formation et l'emploi recherché. C'est pour cela que nous sommes à l'initiative d'un tel projet pour permettre très rapidement aux jeunes et à leurs parents de prendre conscience des opportunités d'emploi à court et à moyen terme.
Vous sentez les gens, les familles, les jeunes de plus en plus concernés, voire inquiets, pour les parents en tout cas, pour l'avenir de leurs enfants dans un pays comme la Côte d'Ivoire?
Oui, bien sûr. Alors, il faut aussi rappeler que la Côte d'Ivoire est sortie d'une crise récente, mais aujourd'hui a retrouvé le chemin de la normalisation. Les jeunes sont de plus en plus ouverts au monde extérieur. Les familles ivoiriennes se préoccupent des besoins de leurs enfants. Donc, il y a vraiment un engouement, si vous voulez, de ces parents-là à rechercher des voies et moyens pour que les enfants puissent s'insérer professionnellement et socialement.
Oui, et tout ça en pleine campagne présidentielle. Merci beaucoup, Assita Diabaté. Je vous attendais à peu près 10 000 personnes à Abidjan, salon des moins de 25 ans. Ça démarre donc, c'est entre le 20 et le 24 septembre et ça se passera à l'hôtel Pan Club à Cocody, un quartier plutôt huppé, au quartier lycée technique. Je crois que j'ai tout dit, Assita Diabaté.
Alors c'est du 24 au 27 septembre.
Pardon, 24-27 septembre. La date a changé parce que la rentrée scolaire a changé, je crois.
Exactement. Et donc le site de l'événement pour terminer, www.juniorexpo.ci. Nous invitons tous les participants et le grand public à aller s'inscrire gratuitement.
Merci infiniment. Lundi, 7 milliards de voisins. La parole est aux jeunes diplômés qui veulent entreprendre sur le continent africain avec le retour du coach Didier Akwété. Comme chaque mois, il est dans l'émission, il écoute, il vous écoute, il écoute vos projets et il vous conseille pour devenir entrepreneur. Alors si vous avez des idées, lui il a de l'expérience, écrivez-nous dès maintenant à 7 milliards@rfi.fr. À lundi.